Voilà, j'ai le privilège sur vous là pendant 40 minutes de pouvoir respirer normalement. Bien, je dis merci Seigneur qui nous inspire les uns les autres. La lecture qu'a faite Michel était tout à propos. Les dons spirituels qui s'exercent parce que son esprit est à l'œuvre. Je bénis Dieu pour sa présence. Et je bénis Dieu d'avoir l'Église. C'est important de se réunir. Important de se retrouver. On va faire deux lectures, si vous le voulez bien. La première lecture se trouve au psaume 131. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Et puis, la deuxième lecture se trouve dans le prophète Ésaïe. Ésaïe 21, versets 11 et 12. Oracle sur Douma, on me crie de Séir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous. Et revenez. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Revenons à notre premier texte, notre première lecture. Le psalmiste affirme, David, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré. L'image du nourrisson, elle est belle. Le nourrisson qui repose sur le sein maternel témoigne ici de la tranquillité qu'il y a à se reposer sur le sein du Seigneur et à se nourrir de sa parole. Cette image du nourrisson est tout simplement magnifique. Pour David, vous le savez, sa vie a été une succession de circonstances, de situations, pas toujours faciles, parfois même difficiles, où sa vie était en jeu, où il risquait sa vie. Mais sa tranquillité ici résulte de son attitude. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi, loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille. Cette attitude, c'est celle de l'humilité, qui est le contraire de la suffisance de l'arrogance, des prétentions inavouées. David, conscient de sa vulnérabilité et du danger qui le guette, met sa confiance en Dieu et non dans ses propres forces. Sachons dépendre de Dieu. Sachons lui faire confiance. Sachons nous appuyer sur Dieu et ne pas compter sur nos propres forces. Le confinement qui nous a été imposé a mis en évidence la fragilité de l'homme, notre fragilité. Mais ne peut-on pas penser raisonnablement que notre Dieu ait permis que toute activité humaine soit un temps en arrêt pour amener hommes et femmes à réfléchir, à s'interroger, si nécessaire, à se remettre en cause, y compris nous, les enfants de Dieu, qui avons été touchés. Ah, certains peuvent penser, et m'a rapporté un propos d'une sœur qui a été tenue il n'y a pas très longtemps, qui s'imaginait qu'en tant qu'enfant de Dieu, elle ne pouvait pas être touchée, elle n'avait rien à redouter, à craindre. Mais les faits sont là. Plusieurs ont été touchés. Le psaume 91, verset 7, nous dit que la peste qui sévissait, la contagion qui frappait en plein midi, en plein jour, c'était comme le Covid-19. Je crois que nous venons de vivre la cessation de toute activité. Je crois que cela a été le moyen de Dieu pour utiliser ses enfants, qu'ils s'interrogent et qu'ils intègrent dans leur pensée, car c'est un signe, et qu'ils intègrent dans leur pensée que Jésus est à la porte, que Jésus revient, que son retour est imminent, et que bon nombre d'entre nous n'est pas prêt à cet enlèvement. Cette pause, ce stop inattendu nous a donné du temps et toute liberté pour examiner notre progression vers la cité céleste, notre positionnement par rapport au retour de Jésus, qui, sur les nuées du ciel, rappelons-le, viendra prendre les siens, tous ceux qui auront aimé son avènement. Celles qui auront aimé, chéri son avènement, comme le dit 2 Timothée 4,8. Traduction autre dit, tous ceux qui auront porté dans leur cœur l'attente joyeuse de son avènement. Êtes-vous de ceux qui attendent le Seigneur Jésus? Est-ce que c'est quelque chose de réel dans votre cœur, présent à votre pensée? Tout le temps? Je ne suis pas sûr. Ensemble, pouvons-nous dire, mais viens, Seigneur Jésus, appelons-nous de nos voeux le retour de Jésus, ou préférerions-nous que Dieu diffère son retour, car nous avons dans le cœur des projets qui nous tiennent à cœur. Seigneur, je veux bien, mais permets que. Présentement, votre repos, le repos de votre cœur dépend de cette attente sereine du retour de Jésus. Vous avez du repos parce que vous croyez au Seigneur Jésus, à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, et là, une grande paix vous a envahi. Mais il y a aussi cette attente joyeuse du retour de Jésus. Il vous faut intégrer cette pensée, et si vous l'intégrez, et si vous l'attendez, vous serez pleinement en repos. J'ai l'âme calme, j'ai l'âme tranquille. C'est une des clés pour goûter au bonheur, après que vous ayez mis en règle votre vie et reçu l'assurance du pardon de vos péchés. Alors il y a des conflits permanents en nous, entre notre âme et notre moi. Soyons réalistes, le monde avec sa convoitise exerce sur nous une pression. Satan reste le maître de la séduction et des chrétiens aujourd'hui sont séduits par le monde. Mais la promesse du berger est là. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Faut-il encore avoir le désir de rester dans cette main du Seigneur ? Pendant ce confinement, et là je peux en remercier plusieurs, nous avons été entretenus par diverses pensées, divers textes qui furent les bienvenus. Je ne sais pas comment vous avez occupé vos journées, mais loin de tourner en rond dans notre maison et dans notre jardin, nous avons occupé nos journées à réfléchir. Nous sommes assis et pris le temps de lire la Bible pour approfondir nos connaissances, rechercher la pensée du Seigneur. Et pour nous, cela fut un temps surprenant, mais étonnamment paisible et constructif. Les chroniqueurs, les éditorialistes, les experts, les hommes politiques ont été nombreux à prédire un avant et un après Covid. Je crois qu'il y a un avant et un après. Mais ce que je puis vous affirmer, vous dire, nous concernant, c'est que notre manière d'être et de penser a évolué, et notamment notre regard sur le monde. Le compte à rebours marquant le retour de Jésus est enclenché. Jésus est à la porte, la main sur la clenche. Le minuteur de Dieu est activé. Le minuteur de Dieu est activé. La trompette qui doit marquer son retour ne va plus tarder à sonner. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Êtes-vous venu à un moment me dire, tu sais Jean-Louis, le Seigneur revient. On devrait le dire, c'est une consolation pour nous. Ces paroles sont à prendre au sérieux. C'est le message que Dieu a voulu faire passer en commençant par le peuple de Dieu qui a été touché. Je persiste et signe, crise sanitaire, oui. Crise salutaire, oui. Mille fois oui. Permis par Dieu, car le retour de Jésus ne saurait tarder. Et notre devoir est de prier pour que bon nombre d'hommes et de femmes soient sauvés. Cette pandémie est un avertissement pour les chrétiens. Y aura-t-il un second avertissement ? Ça semble se profiler. Mais un troisième, arguant que Dieu est patient et qu'il usera encore de miséricorde. C'est vrai, il est patient, c'est vrai, il est miséricordieux. Mais la patience de Dieu a des limites. Ayons l'intelligence de ne pas mettre Dieu à l'épreuve. Que personne ne vous trompe par des discours vides, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur, Éphésiens 5:6. Je reviens à notre texte de référence, le psaume 131, le psalmiste d'affirmer « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille ». Paul a écrit sous l'inspiration de l'Esprit, « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. » La paix de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut en concevoir et en dire gardera vos cœurs et vos pensées et la maintiendra dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. Philippiens 4:7. Il est bon de s'entretenir de telles paroles et d'en faire l'expérience. L'Église, je disais, n'a pas été épargnée. L'Église de France, notamment. Vous avez tous à l'esprit le drame qui s'est noué dans l'Église de Mulhouse et dans sa région. Est-ce que nos frères et sœurs du Grand Est étaient moins bons que nous ? Bien évidemment, non. Dieu a permis cet électrochoc pour faire passer ce message de nous positionner par rapport au retour de Jésus, dont lui seul connaît l'heure et le jour. Il nous est conseillé de ne pas spéculer à ce sujet, mais plutôt de l'attendre d'une foi ferme et d'être prêt comme si cela pouvait arriver dans l'heure. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, et versets 40, 41, 42. Notre petite fille, Mathilde, engagée pour le Seigneur, et elle l'est. Elle travaille même pour le Seigneur. Et aujourd'hui, à son tour, son frère, Théo, touché, infecté par ce virus, ces jeunes seraient-ils moins bons ? Ces petits-enfants, nos petits-enfants, seraient-ils moins bons que les autres ? Bien sûr que non. Mais je crois que c'est le moyen pour Dieu de nous interpeller. Notre frère Jean-Marc Taubois a été mortellement touché. Je ne sais pas si ça vous a frappé, mais ça a été un choc. A-t-il été moins bon que nous ? Bien sûr que non. Le rayonnement de son ministère, son impact, qui a fait de lui ces dernières années une sentinelle avertie de la dernière heure. Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, si vous voulez savoir, interrogez, questionnez, allez-y. Mais c'est ce qui suit qui est important. Mais convertissez-vous et revenez. Cette prophétie, le matin vient, la nuit aussi, annonçait des incursions assyriennes préjudiciables dans le pays d'Édom, où se trouvait notamment une magnifique oasis, celle de Douma. Mais cette prophétie annonce également des temps particuliers à venir. Oui, nous avons toute liberté de questionner, de s'interroger sur l'avenir, d'avoir des discussions, des échanges entre nous, à n'en plus finir même. Mais c'est ce que dit la sentinelle qui est essentiel. Convertissez-vous et revenez à Dieu. Il est écrit le matin vient et la nuit aussi. Ah, on pourrait penser qu'il y a une anomalie, hein, une mauvaise traduction, ou je ne sais. Le matin dont il est question, où tous les espoirs sont permis, comme lorsqu'on aborde une belle journée d'été, sera pour les enfants de Dieu un jour nouveau, baigné de toute la lumière de Dieu. Vous y croyez ? Vous l'espérez ? Vous l'attendez ? Bientôt, la lumière de Dieu va nous émerveiller, nous éblouir même. Ce jour nouveau commence par la venue de Jésus sur les nuées du ciel pour enlever l'Église. C'est un jour éternel pour tous ceux qui auront été enlevés. Mais la nuit dont il est parlé, la nuit qui est synonyme d'angoisse, de frayeur, de désespérance, c'est la nuit pour ceux qui restent. C'est la nuit pour ceux qui restent. Alors vous me direz, oui, mais on peut être sauvé, est-il écrit, comme à travers du feu. Moi, j'y tiens pas du tout. Hein. Je préfère partir au premier appel, premier coup de trompette, parce que ceux qui resteront souffriront. Je ne veux pas prendre ce risque. Vous savez, j'en ai témoigné déjà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai vécu l'enlèvement et je n'étais pas pris, et c'est quelque chose de terrible, mais de terrible que de n'être pas pris. Et cela m'a valu 2 jours et 2 nuits d'angoisse. Mais à la croix, où j'ai vite fait d'aller, j'ai réglé la question vitale de mon salut, car à ce moment-là, je n'étais pas sauvé. Je crois que ce Covid, et j'insiste et persiste, a été permis par Dieu et il est un avertissement pour tous les chrétiens appelés à réfléchir, à s'interroger, à sonder les Écritures, voire à se remettre en question à l'image du fils prodigue de la parabole qui revient vers son père après avoir fait le point sur sa vie de dilettante et de perdition. Convertissez-vous et revenez. Se convertir, vous le savez, c'est changer de cap, c'est faire demi-tour sur soi-même pour marcher à l'opposé de la voie empruntée. Mais il faut le vouloir, il faut le désirer. Il y a la nécessité, pour plusieurs d'entre nous peut-être, de réfléchir, de se remettre en question, parce qu'il y a peut-être eu un peu trop de dilettantes. En disant cela, je réfléchis pour moi-même. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes de nouvelles créatures et pourtant nous avons des failles, des manquements. Pour ne parler que de moi, il m'arrive de ne pas avoir toujours des pensées justes, de penser avec justesse, de commettre des erreurs de jugement ou de juger trop vite. Erreur d'appréciation, de porter un regard de convoitise un instant sur des choses matérielles, ou de regarder telle ou telle personne bien établie un court instant avec avec l'envie d'être comme cette personne. Ça vous est jamais arrivé ? Bien sûr que si. C'est un combat peut-être, je ne dis pas de tous les jours, mais c'est un combat que nous avons à mener. La vieille nature ne se rappelle-t-elle pas à nous facilement ? Mais il est écrit que celui qui se réfugie en Christ, le Dieu de paix, à ce moment-là, gardera son cœur et ses pensées. La parade, savoir reconnaître son état, l'admettre, le confesser à Dieu, ce qui est synonyme de conversion. Convertissez-vous et revenez. Vous allez me dire, mais moi je suis chrétien, je marche depuis 30 ans, 40 ans, frère, qu'est-ce que vous nous racontez ? Convertissez-vous. Charles Finet disait qu'il fallait le faire. Il disait que lui, il éprouvait le besoin de le faire régulièrement. Tous les 2 ou 3 semaines, il se remettait en question devant Dieu. Si Dieu occupe ma pensée, nourrit, et si je me nourris des vérités de sa parole, je serai bien inspiré et gardé de tout mal. Le péché éloigne du livre, mais le livre éloigne du péché. Je ne peux que vous inciter à lire la parole de Dieu. Sache que dans les derniers jours, il y aura, vous connaissez le texte, je le cite souvent, une vérité ressort, c'est que le retour de Jésus est proche et que ces choses sont annonciatrices de sa venue. Qu'en conséquence, nous devons intégrer dans notre pensée la nécessité d'être prêts. L'éventualité de son retour deviendra soudainement une réalité pour nous, glorieuse pour ceux qui sont enlevés, dramatique pour ceux qui seront laissés. Comme je l'ai dit, je ne veux pas en prendre le risque. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Cette parole de Jésus ne vous incite-t-elle pas à la réflexion ? Et elle sonne comme une mise en garde, un avertissement. Le père Duval, les plus anciens vont connaître. Père Duval, ce jésuite bien inspiré, chantait « Le Seigneur reviendra, il l'a promis. Il reviendra la nuit quand on ne l'attend pas. Le Seigneur reviendra, il l'a promis. Ne sois pas endormi cette nuit-là. Nous devons tenir nos lampes prêtes, allumées. » Et nous tenir éveillés. 2 voies s'offrent à nous. 2 voies s'offrent à nous. Le chemin étroit et resserré, le chemin large et spacieux. Jésus a dit, entrez par la porte étroite, large et la porte spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Et puis il n'y a pas, si on s'en tient à ce que nous dit Jésus, de 3e voie, une sorte de voie médiane, dans laquelle il nous arrive peut-être parfois de marcher. Je m'excuse d'être aussi direct, mais c'est vraiment le message que j'ai sur le cœur. Il n'y a pas de voie médiane, une sorte de 3e chemin qui nous permettrait, sans prendre de risque, sans danger, d'avoir un pied, oh ben oui, quand même, Seigneur, sur le chemin du salut, et puis l'autre pied sur la voie large, spacieuse, du monde, une sorte d'autoroute, mais qui mène à la perdition éternelle. Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 pieds ? Sainteté et péché ne peuvent cohabiter. Lumière et ténèbres ne peuvent cohabiter. Vérité et mensonge ne peuvent cohabiter. Lorsque j'avais 16-17 ans, ça remonte, on était fin des années 50, début des années 60, okay. Il y a eu parmi la jeunesse, quelque chose qui s'est qui s'est établi, que toute bonne loi, les jeunes se mirent à se fréquenter. On dirait, il n'y a rien d'anormal. C'est ainsi que le flirt a pris naissance. Nos aînés disaient, oh, ce n'est qu'un flirt. Ce qui était anormal, c'est, vous savez ce que c'est qu'un flirt ? C'est une relation, mais sans engagement. On s'amuse, on prend les choses comme cela vient, mais l'on ne s'engage pas. Le jeune homme ne s'engage pas envers la jeune fille. La jeune fille ne s'engage pas envers le jeune homme. Françoise Hardy a très bien décrit cela dans cette chanson que vous connaissez sans doute. « Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux. » Alors pourquoi ai-je fait référence à ce phénomène ? Afin de mettre en relief cette vérité que Dieu ne s'amuse pas avec ses créatures. Dieu ne flirte pas. Dieu aime profondément et durablement ses créatures, les créatures que nous sommes. Il ne se joue pas de nos sentiments. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu est sûr. Et Dieu s'engage. Dès l'instant où tu te tournes vers lui, dès l'instant où tu fais appel à lui, dès l'instant où tu lui dis, voici ma vie, je te la confie, je te la donne, Dieu s'engage vis-à-vis de vous. Il s'engage à vous emmener jusque dans l'éternité, dans son ciel de gloire. Il est dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu s'engage vis-à-vis de chacun et scelle cet engagement par le sang de son Fils qui a été versé une fois pour toutes et pour la multitude à la croix du calvaire. Quand un homme, une femme emprête le chemin du salut et prend résolument cette voie, Dieu s'engage à le conduire jusqu'en vie éternelle. Vous en avez l'assurance ? Vous pouvez dire amen ? Je sais que Dieu me conduit assurément sur le chemin du salut, sur son chemin. Il n'y a pas de voie médiane, elle est dangereuse celle-là. Si l'on veut avoir un pied sur le chemin du Seigneur et un pied dans le monde, Dieu nous aime de manière absolue. C'est un amour infini. Ses sentiments ne varieront pas. Ces sentiments ne changeront pas au fil des années. Bientôt 50 ans, et je pourrais dire, nous pourrons dire, Agnès et moi, que Dieu a été fidèle en toute chose. Fidèle en toute chose. Dans nos deux textes pris en référence, le psaume 131 et Ésaïe 21:11, les conclusions sont « Confie-toi en l'Éternel ». Ça, c'est ce que dit le psalmiste. Et le prophète, lui, rapporte les propos de la sentinelle qui dit « Convertissez-vous et revenez à Dieu ». Se confier à Dieu, se remettre en question, revenir à lui dans l'humilité. Je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Trois démarches essentielles si nous voulons assurément atteindre le ciel. David dit, j'ai l'âme calme et tranquille. Son cœur est en paix. L'après-Covid sera sans doute difficile et je vais terminer, mettant à mal l'économie. Ajoutez à cela le réchauffement climatique. Il y a suffisamment là d'ingrédients pour engendrer la peur, l'angoisse et la désespérance. Je ne sais pas si vous avez entendu quelqu'un qui était en interview hier et qui disait comment il avait de la peur, de la crainte, comment il n'osait pas penser l'avenir, regarder devant lui parce qu'il avait peur. Il dit, on n'a rien, l'on n'a rien, nous avons les promesses de Dieu. Il nous faut les serrer sur notre cœur et ne pas dévier. Et puis, il est bon de pouvoir se dire, et c'est ce que j'ai voulu faire passer comme message ce matin, c'est que Jésus revient et qu'au plus fort de ces événements difficiles, Jésus va revenir pour nous prendre avec lui, pour nous mettre en sécurité, parce que c'est là la volonté de son Père que de nous savoir en sécurité. Puis je crois aussi que le Père a envie de nous avoir avec lui. C'est normal. Je ne sais pas, nous on a des petits-enfants et des enfants. On aime voir la maison se remplir, même si c'est de la fatigue pour la maîtresse de maison. On aime les avoir avec soi, c'est naturel, c'est normal. Je vois Francine qui dit oui. Hein. On aime avoir ses enfants, ses petits-enfants. Nous sommes les bien-aimés du Père. Nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Nous sommes ses enfants. Et Dieu n'a qu'un désir, nous avoir avec lui, pour nous faire découvrir son ciel, pour nous dire, voilà, voilà ce que je t'ai préparé. L'on peut penser que notre Père céleste n'a qu'une hâte, que les préparatifs dans le ciel se terminent et qu'il nous ait tous avec lui. Et vous ne dites pas amen ? Amen. Dieu nous veut avec lui et les préparatifs vont bon train. C'est Jésus qui le dit et je conclue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous pouvez garder cette pensée-là toute la semaine, la penser, la repenser. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et vous allez accomplir des exploits. Peuple bien-aimé, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant. Et à jamais, confie-toi en Dieu, remets-toi en question si nécessaire, convertis-toi et reviens à lui en toute humilité si c'est nécessaire. Mais je t'en supplie, fais-le. Frères et sœurs, fais-le. Et ami qui peut-être n'a pas encore réglé sa vie sur le Seigneur, qui n'a pas encore fait le pas, ne s'est pas engagé, je lui dis ne tarde plus. Ton bonheur dépend du fait de lui confier ta vie et de te donner entièrement à lui. Que Dieu soit béni. Le Seigneur dit, oui, je viens bientôt. Pouvons-nous dire ensemble, viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Il est toujours bon de la consulter, de la lire, de s'en imprégner. Elle est la vérité absolue et nous aimons appliquer ces vérités à nos cœurs. Merci pour ceux qui ont été inspirés, qui l'ont transcrite, tous ceux qui l'ont gardée précieusement, fidèlement, et pour ceux qui nous l'ont fait entendre. Je te loue, Seigneur, pour ta parole. Elle est la vérité. Elle soutient mon cœur, elle nourrit mon âme, elle fortifie tout l'être et je t'en remercie. Sois béni pour l'aide que tu m'as apportée après cette semaine difficile. Merci mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen.